Le manche disque. L'émission qui tourne,
qui tourne, qui tourne, qui tourne.
À 33 tours minutes.
Et bonsoir à tous,
bonsoir.
Et à toutes. Bienvenue dans le manche disque, une nouvelle fois sur les ondes du 101.5 FM de Radio G à Angers, pour l'émission consacrée au disque vinyle.
Tout à fait.
L'émission de référence du disque vinyle.
Oh bah oui, n'ayons pas peur des mots.
N'ayons pas peur, n'ayons pas honte, ne soyons pas humbles.
Non.
Donc c'est Nico et Julien une nouvelle fois. Ce soir, pas d'excuses, Facebook est en rade. Donc heureusement que la radio est là. T'es pas au courant, Julien?
Bah je non, vois j'ai,
ton
j'ai
air
plus de,
étonné.
Ouais, j'ai plus de,
depuis
genre,
17h, gros bug de réseau, WhatsApp, de Messenger, Facebook, tout ça, ça marche plus.
Comment font
c'est
les
la
gens
catastrophe, comment font les gens? Eh bien, ils ont la radio.
Il y a un mois et demi, j'aurais été en PLS, mais maintenant je suis libéré.
Ils ont la radio, les gens, on est là, on va vous distraire ce soir, on va pas. Vous n'arrivez pas à dormir à cause de
votre... Vous pouvez plus scroller, bah écoutez.
C'est ça, votre manque de dopamine. Et bien maintenant, voilà, le manche disque va vous endormir tranquillement.
Tranquillement.
Non, pas endormir, c'est vrai, pas tranquillement, en plus, vu la playlist. Mais on va vous passer donc des morceaux, certains qu'on a achetés récemment, d'autres qu'on a depuis longtemps, et d'autres qu'on a trouvés en vide-grenier, qu'on va écouter un petit peu en l'état. Donc peut-être que ça va faire des chcriques, des chcracks, et des bruits qu'on aime bien quand on écoute du vinyle. Mais on va commencer par un petit souvenir.
Une rétrospective, ouais, un petit souvenir. Ça fait un petit peu plus d'une semaine maintenant, puisque c'était vendredi et samedi, donc dernier, enfin pas dernier, mais ceux d'avant, hein, encore, voilà quoi.
C'est ça, il y a à peu près un peu plus d'une semaine.
Un peu plus d'une semaine, exactement. Vous c'était l'évitation, enfin le retour après une année, évidemment, en stand-by due au coronavirus. Déménagement, puisqu'on est passé du théâtre du Quai au parking du Shabada. Alors c'est vrai que dit comme ça, le parking du Shabada, ça fait pas super glamour, mais c'était quand même plutôt bien aménagé.
C'était plutôt pas mal, hein. C'était
avec les deux scènes qui se faisaient face à face, donc ce qui empêchait les chevauchements des artistes. Enfin, des artistes, de leurs prestations, parce que le chevauchement des artistes, on n'était pas backstage, donc on sait pas. Mais donc, ça, c'était plutôt un point assez positif.
Ouais, et puis la météo aussi.
La météo, parce
que. De la chance.
On a eu de la chance, parce qu'il y a une semaine d'écart, t'as vu le temps de samedi dernier, ça aurait été le déluge. Alors que là, a priori, la pluie est tombée sur les courageux qui sont arrivés dès l'ouverture du samedi.
Voilà.
Ce qu'on n'a pas, nous, forcément fait, parce que, en tout cas, pour ma part, je suis un peu vieux. Donc
parce que c'est nous les gros chanceux.
Je ne peux pas faire 10 heures debout, là, comme ça, à piétiner.
Ouais. Mais on a quand même pris du bon son dans les oreilles.
On a pris du bon son, surtout le deuxième soir, je pense, on peut dire.
On a un petit peu. Alors, il y avait du bon dans les deux soirs, mais c'est vrai que la grosse claque intergalactique, genre, ça s'arrête quand et c'est quoi le. À un moment donné, il va peut-être y avoir un groupe un peu moins bien que l'autre. Eh bien, ça a été plutôt le samedi, effectivement. Alors, on va vous passer deux de nos souvenirs.
D'ailleurs, petit point quand même peut-être à améliorer, si on peut dire. Par rapport aux années précédentes, où étaient les disques?
Il n'y en avait pas beaucoup.
Il n'y en avait pas beaucoup. Le deuxième soir, par hasard, j'ai vu quelqu'un passer avec un disque. Je me suis dit, c'est bon, il doit l'emmener pour le faire dédicacer, je ne sais quoi. Et quand j'ai vu une personne passer avec un deuxième disque, limite, je l'ai pris en filature. Et on a trouvé, effectivement, les Scuds de Slift, et puis d'un ou deux autres groupes que je n'ai pas pu identifier, mais c'est tout.
Ouais.
Alors qu'avant, il y avait un disquaire qui avait des bacs à perte de vue, et puis surtout un merchandising officiel avec la plupart des groupes qui passaient, qui venaient avec leur dernière production en cassette, en CD, en vinyle, quoi.
Ouais, c'est vrai, cette année, c'était un petit peu pauvre.
Un petit peu nulos.
Visiblement pas la priorité absolue des organisateurs, sans doute.
Mais
c'est vrai que c'est dommage, parce que repartir avec un petit coup de cœur qu'on a eu en festival, c'est toujours pas mal. Et puis ça fait du bien au groupe aussi, je pense, de vendre en direct.
En direct, je pense qu'il y a un peu plus de marge et tout. Donc
peut-être l'année prochaine. D'ailleurs, l'année prochaine, c'est pas dans un an, c'est très prochainement, c'est en juin. On a appris ça carrément presque le lendemain du festival.
Une augmentation de 33%, ça fait ça à peu près, non? Je sais pas. Enfin,
trois jours au lieu de deux, quoi.
C'est ça,
tout à fait, tout à fait.
Donc ça risque d'être un peu éprouvant physiquement, on sera encore plus vieux, enfin je parle pour moi, mais
c'est de la bonne fatigue.
Ouais, c'est de la bonne fatigue.
Allez, on s'écoute nos coups de cœur, on en parle après.
Yeah.
Et voilà. Waouh, on était encore resté dans la navette spatiale. Ah ouais, je ne sais pas si ça s'est entendu à l'antenne. Mais on a eu un Larsen de ouf dans le studio. Donc c'était nos coups de cœur de Lévitation. Je te laisse parler de ce qu'on a écouté en dernier.
Oui, bah pourquoi pas. Alors c'était un morceau du groupe, du duo Dame Area. Donc c'est un duo d'industriels tribal hein, de Barcelone qui est composé donc de Silvia Constance et Victor L. Crux. Alors ils se sont rencontrés dans un collectif d'artistes à Barcelone qui s'appelle Magia Roja, qui a l'air d'être très très important pour eux, hein. J'ai lu quelques interviews, ils en parlent beaucoup et tout. C'est un lieu qui malheureusement est fermé maintenant et tout le monde venait et c'était des arts plastiques, c'était la musique, etc. Donc ils se sont rencontrés là. Elle est italienne, lui il est espagnol, lui il travaillait déjà dans la musique, elle pas forcément je crois. Et donc ils se sont rencontrés, ils ont fait deux albums, le premier en 2018 et là on a écouté un morceau du deuxième album qui s'appelle Ondas Tribales, ça c'est le nom de l'album, et la chanson c'était La Danza del Ferro. Alors voilà, c'est de l'électro body music à tendance un peu industrielle, avec du chant soit en italien, soit en espagnol, a priori même en polonais je crois, mais en tout cas pas sur cet album là. Et moi ça a été un peu mon groupe, hein. C'est-à-dire que on est parti faire une petite pause et puis j'entendais des bons gros sons industriels et tout, parce qu'il y a sur scène il y a une espèce de chevalet avec un crin de violon ou je sais pas quoi, enfin qui produit des sons bien déchirants, bien grinçants. Je suis revenu à toute vitesse pour profiter de la fin de ce concert, j'ai beaucoup aimé.
Ouais, mais ils ont remplacé, je crois, sur le fil, l'absence d'un groupe qui était programmé, que je ne connaissais pas, donc que j'ai pas retenu, mais qui avait l'air de décevoir pas mal de personnes par leur absence. Donc c'est bien, parce que ça permet à Dame Area de marquer les esprits, et effectivement, c'est super sympa. Et juste avant, on s'écoutait les Toulousaines.
Ben oui.
Toulousaines de Slift.
De Slift, effectivement, ouais.
Et ouais. Parce que c'était aussi une des grosses claques de ce festival. Oh. Alors on les connaissait un peu, Slift, hein, t'en avais déjà passé, puisque tu as acquis leur dernier album Human, bien avant Lévitation, bien avant leur passage prévu.
Oui, au Shabada.
Malheureusement
annulé, effectivement.
Et à Lévitation de l'année dernière. Et donc, on avait déjà passé dans l'émission, on avait déjà dit que c'était super cool et tout. Et là, c'est vrai que sur scène.
En live, c'est vraiment très impressionnant. Il part très loin, mais dans la maîtrise, mais en même temps, c'est pas froid, quoi. On est dedans, il nous emmène.
On est dans le psyché, dans le heavy psyché, et puis pas que heavy, des fois.
C'est
bon,
très
on
généreux.
On change d'ambiance, il nous envoie très, 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 très loin. C'est fait
ils ont,
avec
ils, ont
une
ils sont trois, ils ont une présence scénique de malade en fait. Ils dégagent un son à comparer avec d'autres groupes où ils sont sept sur scène. Ouais. Voilà, ça fait un peu rigoler quoi.
Ah, mais ça c'est clair. Ça c'est clair que là le psyché, on sait de quel côté il est, en tout cas celui qu'on aime. Mm-hmm. Et c'était assez assez extraordinaire. Alors on va enchaîner avec quelque chose qui a moins à voir avec le psyché, quoique quand même c'est du jazz fusion de plein de choses. C'est une trouvaille de vide grenier, c'est une trouvaille de vide grenier d'un groupe que je ne connaissais pas, qui s'appelle Backdoor. Et ce groupe Backdoor, c'est un trio donc jazz fusion britannique qui officiait dans une boîte de nuit en Angleterre du côté de Yorkshire et qui avait du mal un petit peu à attirer l'attention des maisons de disques du fait de n'avoir pas choisi de chanter sur leurs morceaux. Et donc les maisons de disques leur répondaient que c'est bien sympa ce que vous faites les gars, mais si vous n'avez pas de chansons de chanteurs, eh bien, vous faites pas de chansons.
On sort un peu des sentiers battus, quoi.
Ça passe pas à la radio.
C'est pas très radiophonique.
Voilà, exactement.
C'est dommage.
C'est très dommage. Et du coup, ils ont persisté quand même. Ils ont sorti leur premier album. Ils l'ont autoproduit, ils l'ont mixé avec du matos, de rudimentaire. Et puis, ils l'ont diffusé un peu. Ils l'ont vendu un peu dans la boîte où ils officiaient. Ça s'est répandu. Et puis, c'est arrivé quand même jusqu'aux oreilles d'un critique musical qui en a sorti une belle critique. Et donc, forcément, les maisons de disques sont revenues en disant, écoutez, les gars,
finalement,
on s'est un peu trompé. On veut bien vous signer, en fait. Et puis, donc ils ont signé. Ils se caractérisent, alors pour vous dire un petit peu le son, hein, ils se caractérisent par la fusion, effectivement, le mot est faible parce qu'il y a plein d'influences, blues, mais jazz, parfois même un petit peu celtique. Voilà, il y a une basse, une grosse basse. Alors j'ai, avec mes recherches sur le groupe, je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait quand même une façon très particulière de mixer et aussi de jouer de la basse de la part de de Colin Hodkinson, puisque c'est lui le bassiste du trio, composé de Ron Asbury au sax, à la flûte et au piano, et Tony Hicks à la batterie. Donc voilà, ça nous donne un son assez typique et assez particulier, qui est très très bien. Alors sur leur deuxième album, qui est celui que j'ai trouvé envie de gagner, qui s'appelle 8th Street Nights, il y a du chant, parce que à un moment donné, je pense qu'ils ont cédé.
Ouais.
Mais c'est pas n'importe quel chant, c'est le chant du bassiste qui dit de son propre aveu que il leur fallait un chanteur et que c'était celui qui se démerdait le moins mal.
D'accord.
Donc il a posé quelques phrases sur certains morceaux, mais bon, on voit bien qu'il y a pas, c'est pas une voix qui va rester dans les annales de la musique, mais bon, ça fait le taf. Donc je vous ai préparé un petit aperçu d'un morceau qui s'appelle Roberta. Tu m'as fait remarquer à juste titre que j'ai pas dit ce qu'on avait écouté de Sleeve tout à l'heure. Je le casse très vite. C'était le morceau Dark Was Space, Cold Were the Stars, qui vous remet directement dans l'ambiance cosmique et intergalactique de ce groupe. Je reviens à 8th Street Nights, donc Roberta. On est un peu moins dans le voyage intersidéral avec ce titre, mais sait-on jamais, je ne connais pas cette femme. On écoute ça tout de suite. Ça grésille peut-être un petit peu, ça va crépiter parce que c'est une trouvaille de vide-grenier en l'état, et je vous le passe sans tricher. C'était donc, comme annoncé, les Backdoor et leur trio jazz. J'ai oublié de dire que c'était en 1973 qu'était né ce disque. C'est quand même important de replacer les disques dans leur époque. Et j'ai oublié de dire qu'il était produit par Félix Papalardi.
Ah oui, quand même. Mountain et compagnie, Cream.
Ouais. Oui, voilà. Et il joue même du piano sur Forget Me Daisy.
Très, très, très bon producteur. Dans son genre.
Donc c'est pour dire quand même que quand j'ai dit qu'ils avaient attiré l'attention, ils ont attiré l'attention quand même. Oui. Ils se sont attirés aussi des collaborations prestigieuses. Donc voilà.
Exactement.
Un groupe qui mérite d'être creusé un petit peu. Moi, en tout cas, je vais essayer. Si leur premier album, notamment enregistré dans des conditions d'antenne, ça doit être pas mal rigolo. Voilà.
On enchaîne avec, après Alberta, Ramona, avec un morceau des Ramones. de leur troisième album de 77. L'album s'appelle Rocket to Russia. Et c'est un morceau, une des rares histoires d'amour, si on peut dire, des Ramones. Et c'est un morceau caractéristique parce qu'il est aussi signé par tout le groupe. Voilà, donc on s'écoute ça.
L'amour à la Ramone.
L'amour Ramone, et c'est un petit peu, on va dire, une petite introduction, parce que sur les prochains morceaux, celui-là y compris, moi je vous emmène un peu au CBGB's et dans le New York de la fin des années 70, vous allez voir.
Ah, très très cool.
J'espère que ça vous plaira.
Ah ben, je pense que annoncé comme ça, en tout cas, c'est alléchant. Nous allons maintenant découvrir une artiste que peut-être certains de nos auditeurs connaissent. Hein, je ne veux pas du tout dire qu'elle n'est pas du tout connue. C'est Cathy MacDonald. Cathy MacDonald, c'est une artiste qui a été découverte par Ike Turner, donc le mari, l'ex-mari de Tina Turner, qui a été choriste de Ike Turner notamment, et puis d'autres artistes ensuite. Elle a une voix singulièrement blues soul. Elle a voulu participer au casting de Big Brother et Holding Company. Et puis qui est-ce qui a été la candidate juste avant elle, qui a été engagée sur le champ?
Ah bah ça, là.
Bien sûr, ça c'est dur à trouver.
Ouais.
Janis Joplin, bien sûr.
Goya.
Non, c'est pas Chantal Goya, c'est Janis Joplin, bien sûr. Et donc, elle a raté de peu ce casting, ouais, qui aurait pu faire d'elle la voix blues et soul de Blanche des États-Unis, qui a été bien sûr ensuite attribuée à Janis Joplin. Mais après le split,
elle a su rebondir. Ouais,
alors, elle a su rebondir, ouais, parce qu'après, alors déjà parce qu'elle a fait cet album-là en solo, et après le split de Janis Joplin des Holding de Big Brother, eh bien, elle l'a remplacé. Donc elle a eu sa revanche, mais bon, à une époque où le groupe était peut-être pas forcément en ascension fulgurante au niveau de la fame. Et donc elle a fait cet album solo parmi ses autres collaborations, notamment elle était choriste des Rolling Stones aussi, donc bon, elle a fait pas mal de choses, de choses sympathiques. Ouais. C'est vraiment, vraiment un double vocal de Janis Joplin, hein. C'est pas une imitation parce qu'elle était contemporaine et, ouais, et comme ouais, je l'ai dit, elles allaient au même casting. Donc voilà, c'est, ça, Janis c'est
Joplin
le hasard.
N'était pas déjà une star et non, on pas du tout.
Pas du tout, donc on est vraiment sur des profils hyper similaires et absolument contemporains, donc c'est vraiment assez surprenant, tellement la voix de Janis Joplin est connue pour être atypique et pour être unique en son genre. Et dans Insane Asylum, donc, elle nous passe en revue pas mal de ses influences avec pas mal de reprises, mais aussi quelques petites, alors pas compositions. Quoique, elle signe, je remarque en même temps que je parcours qu'elle a quand même signé un ou deux morceaux avec d'autres. Mais je vais vous sélectionner l'album titre qui s'appelle Insane Asylum, qui est à la base une chanson de Coco Taylor et Willie Dixon.
Ah oui, très blues alors là pour le
très
coup,
très blues. Ouais. Et puis qu'elle interprète, alors forcément Willie Dixon doit être remplacé parce que c'est un duo hein, cette chanson. Eh bien, excusez du peu, celui qui remplace sur ce morceau Willie Dixon et qui chante Insane Asylum avec Cathy McDonald, eh bien c'est Sly Stone de Sly and the Family Stone. Donc on s'écoute ça tout de suite. c'est pas mal hein, quand tu t'appelles Big Brother et Holding Company et que tu as le choix entre Janis et Katie McDonald.
C'est vrai que ce jour-là, ils ont dû se dire bon casting quoi.
Mais ils n'ont même pas écouté. Ils ont dit désolé, on a engagé Janis sur le champ. Donc, elle a pas eu sa chance.
Elle a pas eu sa chance. C'est un peu triste.
C'est un peu triste. Alors oui, alors petite anecdote puisqu'on parle de ça. Elle dit dans une interview qu'elle en a voulu très longtemps de jalousie maladive à Janis Joplin, sans la connaître du tout en fait, et sans suivre sa carrière, et qu'ensuite, plus tard, après la mort de Janis Joplin, elle s'était renseignée sur son destin, sur son destin tragique, sa vie. On va se le dire, un peu de merde quand même. Même si c'était une star. Et que certainement elle a croqué à des belles choses et elle a vécu beaucoup d'émotions, elle a quand même une vie affective complètement chaotique et du coup elle a dit que ça l'avait complètement soignée de sa jalousie en disant que finalement elle était un petit peu plus heureuse comme elle était et elle s'était toujours imaginé que Janis Joplin était morte d'overdose dans des conditions d'une fête un peu extravagante alors qu'en fait pas du tout et elle a eu beaucoup de compassion pour Janis Joplin après coup, voilà,
comme quoi.
Petite anecdote.
Eh ben moi, je vous propose de repartir donc dans les allées pisseuses et obscures de New York de la fin des années 70. Hein, le New York bien crado qu'on peut voir dans des films comme Le Justicier avec Charles Bronson et tout ça.
Yes.
Avec un morceau des Heartbreakers. Alors, c'est un groupe incontournable de la scène rock, punk rock new-yorkaise, formé notamment, alors excusez du peu, par Johnny Thunders et Jerry Nolan après qu'ils aient quitté les New York Dolls et Richard Held après qu'il ait quitté Television. Donc voilà, il y a quand même du beau monde.
Et quitter les New York Dolls vivants, c'est un exploit.
Exactement. Bon, après, ils n'ont pas fait de vieux os ni l'un ni l'autre, mais
bon. Ah oui, bon.
Et donc, avec ce premier et unique album qui s'appelle LAMF, qui veut dire Like a Motherfucker, qui est sorti en 77, c'est a priori cet acronyme, ce sigle, provient d'un tag que Thunders écrivait sur les murs pour marquer son territoire et celui de son gang. Donc, c'est la légende, quoi, en fait. Hein. Dessus, le lien avec les Ramones est évident, puisqu'il y a Chinese Rock, qui est un titre écrit avec Didi Ramone, des Ramones. D'ailleurs, il y a eu des histoires avec les crédits, parce que des fois, il y a un tel qui était crédité sur tel album, parce que les Ramones le reprendront aussi dans un de leurs albums, mais c'est pas exactement les mêmes noms, enfin tu vois, voilà, ça a été un peu le bordel. Par contre, voilà, groupe qui n'a pas duré bien longtemps, c'est leur premier et unique album. La cause, notamment, on peut dire, un mix raté, en fait. Hein. Bon, l'album reste écoutable et super sympa, mais a priori, à la sortie du disque, les musiciens étaient extrêmement déçus. Jerry Nolan a même dit, mais moi, s'il sort en l'état, je me casse. Et il est parti, en plein milieu de la tournée anglaise. Et c'est un des membres des Sex Pistols qui l'a remplacé le temps qu'il négocie son retour. Et puis, à la manière de Raw Power, il a été remixé deux autres fois avec soi-disant le mix définitif d'un tel, de machin, etc. Voilà. Après, moi, j'en sais pas plus hein, là-dessus. Sorti en 77. Et puis, moi, je vous propose le morceau d'ouverture qui s'appelle Born to Lose, qui est un peu devenu leur hymne, en fait, aux Heartbreakers.
Born to lose.
Jimmy aime assez. Oh, Jimmy aime assez. Goodbye. Goodbye. Oh, lucky baby. Oh, lucky baby. Oh, prophet X is a-coming. Oh, prophet X is a-coming.
Alors pour le dernier auditeur qui nous reste, cher ami, c'est un morceau d'Alan Vega qui me permet donc de terminer cette petite trilogie new-yorkaise CBGB. Alan Vega, en fait, c'est la moitié du duo Suicide, qui avait sorti en 1977 un album de synth-punk à base de rythmique d'un vieux synthé qui n'avait même pas de quoi réparer. Ça a bouleversé toute la scène du rock US jusqu'à Bruce Springsteen, qui n'a cessé depuis de déclarer son admiration pour Suicide et qui reprend un de leurs morceaux régulièrement sur scène. Alors Alan Vega, c'est la moitié, on va dire, vocale de Suicide, et 3 ans plus tard il sort ce premier album solo. C'est un artiste sculpteur, musicien, plasticien aussi, et qui donc a cette espèce de voix blues qui a dû, à mon avis, même si je ne l'ai pas lu, mais bon, beaucoup a dû influencer Pierce du Gun Club, parce que je trouve qu'il y a cette même manière de chanter, bon voilà, qui est très blues et très et c'est un album assez intéressant parce qu'il est très à la fois blues et très rock'n'roll, mais rock'n'roll old school, et il est fait par Alan Vega à la voix, Phil Oak à la guitare, et le reste c'est des boîtes à rythme, des glingués à 2 balles, et voilà, donc un projet plutôt bien délirant, bien sympa.
Ouais, si toi aussi tu fais des morceaux paradiophoniques, envoie-les au Manche Disque. Parce que nous, on passe que des trucs voilà, qu'on peut...
8 minutes 37 hein, pour voilà, le coup.
8 minutes 37.
Voilà, qu'on vous a passé en intégralité.
Avec une instru, effectivement, assez minimaliste, mais une atmosphère.
Voilà, une vraie atmosphère.
Mais une vraie atmosphère.
Très répétitive, très blues. Voilà, et qui répond un petit peu à Dame Area du début. Hein,
ouais,
on est un petit peu dans les mêmes eaux, on va dire, je pense. Quand même.
C'est vrai, un petit peu moins punchy, mais plus éthéré, avec pas mal de réverb, d'écho. Ouais, c'était très, très transportant. Encore une fois, et c'est parfait pour cette heure-ci à 23h53. Moi, j'avais prévu qu'on se quitte alors avec un morceau qui est un tube.
Oui.
Hein, donc tu me disais hors antenne, effectivement, c'est pas dans la tradition du manche disque.
On s'en fout.
Mais c'est plus l'histoire en fait de ma découverte de ce disque, hein, parce que j'avoue que ce morceau-là, je le connaissais, mais pas vraiment l'artiste qui était derrière. J'ai depuis forcément que je m'y intéresse découvert qu'il était beaucoup plus connu que ce que je croyais, puisqu'il fait partie cet album-là de la discothèque idéale rock pop rock que nos amis d'une grande surface culturelle sortent régulièrement en matière de vinyle. Donc je vous parle là de Kevin Rowland et d'Exis Midnight Runners. Pareil, trouvaille de vide-grenier, ça fait la 3e que je passe là, c'était le même vide-grenier. Il y a des jours comme ça où on chope des trucs et où on tente des trucs aussi pas chers à la pochette. Et ben, j'ai bien fait de tenter celui-là, comme les autres d'ailleurs, avec donc l'interprète, donc cet album qui s'appelle To Rye High, un truc comme ça. Je cherche l'année qui est 1982. Et donc, on disait tout à l'heure avec toi, Julien, aussi, que c'était un petit peu un one hit wonder.
Ouais, en tout cas en France, effectivement, pas en Angleterre, mais en France et peut-être aux États-Unis, c'est vrai qu'ils sont énormément connus par ça. Une chanson d'ailleurs mentionnée dans un épisode des Simpsons.
Oui.
Qui, Aileen serait Marge Simpson.
Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et dans aussi American Dad, je crois. J'avais vu ça aussi dans mes recherches. Donc, bah, écoutez.
Ah oui, non, effectivement, c'est American Dad.
Ah, c'est American Dad.
Où la femme, la mère de famille, ce serait Aileen.
Ouais, mais je crois que les Simpsons aussi.
Les Simpsons le mentionnent en disant Homer, en parlant du groupe, dit mais ils n'ont pas fait que comme en Aileen.
Ah, ok, d'accord.
Pour bien expliquer. C'est ça. D'accord. Et c'est vrai que Kevin Roland, effectivement, a fait un album précédent qui est très soul, qui est beaucoup moins connu. Ouais. Et qui est plutôt sympa aussi.
Tout seul, peut-être, parce qu'il a eu une période solo aussi.
Je ne sais plus. Je crois qu'il est déjà avec les Dexys, mais. C'est vrai que c'est beaucoup moins celtique, hein. Il n'y a pas tout ce violon, il n'y a pas tout ça. Ouais, c'est vraiment sur cet album.
C'est vrai que j'ai été un peu surpris, moi, quand je l'ai mis. J'ai dit, c'est pas gagné parce que c'est très celtique, violon et tout. Mmh. C'est pas ma cam absolue, moi, les trucs comme ça. Même si j'aime bien les Pogues et compagnie, mais là, pour le coup, c'était un peu hybride. Je ne savais pas trop si j'allais garder ce disque. Et quand il a commencé à chanter, je me suis dit, mais ça, cette voix, je la connais. Petit à petit, comme on a, Aileen est arrivé dans ma tête. Et effectivement, je l'ai attendu, puisque c'est le tout dernier morceau de l'album. Donc, pour avoir confirmation, sachant que c'était, je l'ai attrapé dans un bac de quelqu'un qui avait l'air d'avoir un peu les albums les plus connus de chaque disque. C'était pas non plus les trucs. Ouais. Donc, je me suis dit, tiens, c'est l'album avec Common Eileen dessus, je vais le savoir. Et bien, effectivement, c'est le dernier morceau. Donc, on va l'écouter. Ça fait une petite Madeleine de Proust, même si c'est hyper connu. Oui. Et puis, on va se quitter là-dessus. On va se dire à dans 15 jours, surtout.
Exactement.
Voilà. Salut tout le monde.
Bye bye.
I said to you.